Madame de Genlis. J'ai connu Madame de Genlis avant la Révolution. Elle vint me voir, me présenta au jeune prince d'Orléans dont elle faisait l'éducation, puis, peu de temps après, elle m'amena Paméla, qui me parut aussi jolie qu'on peut l'être. Madame de Genlis était coquette pour cette jeune personne dont elle cherchait à faire valoir les charmes. Je me rappelle qu'elle lui faisait prendre différentes attitudes, lever les yeux au ciel, donner à son beau visage diverses expressions, et, quoique tout cela fût fort agréable à voir, il me parut qu'une aussi profonde étude de coquetterie pourrait profiter beaucoup trop à l'écolière. La conversation de Madame de Genlis m'a toujours semblé préférable à ses ouvrages, quoiqu'elle en ait fait de charmants, notamment Mademoiselle de Clermont, que je regarde comme son chef-d'œuvre. Mais lorsqu'elle causait, son langage avait un certain abandon et sur plusieurs points une certaine franchise qui manquent à ses écrits. Elle racontait d'une manière ravissante et pouvait raconter beaucoup, car nul, je crois, n'avait vu, soit à la cour, soit à la ville, plus de personnes et plus de choses qu'elle en avait vues. Ses moindres discours avaient un charme dont il est difficile de donner l'idée. Ses expressions avaient tant de grâce, le choix de tous ses mots était de si bon goût qu'on aurait voulu pouvoir écrire ce qu'elle disait. Au retour de mes voyages, elle vint un matin chez moi, et comme elle m'avait annoncé sa visite, j'en avertis plusieurs personnes de ma connaissance, dont quelques-unes n'aimaient point Madame de Genlis. À peine eut-elle causé pendant une demi-heure, qu'amis, ennemis, tout était ravi et comme enchanté par cette conversation si brillante. Madame de Genlis n'a jamais dû être précisément jolie. Elle était assez grande et très bien faite. Elle avait beaucoup de physionomie, le regard et le sourire très fins. Je pense que sa figure aurait pris difficilement l'expression de la bonté. Mais elle prenait toute autre expression avec une mobilité prodigieuse. Madame de Verdun. Sans être célèbre comme la femme dont je viens de parler, Madame de Verdun peut être citée pour son esprit si fin et si naturel à la fois. La bonté, la gaieté de son caractère la faisaient rechercher généralement, et je puis regarder comme un bonheur de ma vie qu'elle ait été ma première et qu'elle soit encore ma meilleure amie. Son mari était fermier général. C'était un homme froid en apparence, mais plein d'esprit et de bonté, et qui ne pouvait voir des malheureux sans se presser de les secourir. Il était propriétaire du château de Colombes, près Paris. Ce château avait anciennement été habité par la reine Henriette d'Angleterre. Les murs des salons et des galeries étaient presque tous peints par Simon Vouet. Mais l'humidité avait terni ces peintures remarquables, et M. Verdun, très amateur et connaisseur, ayant entrepris de les faire réparer, y réussit parfaitement. Je suis allé fort souvent habiter ce château plusieurs jours de suite. Monsieur et Madame de Verdun y réunissaient la société la plus aimable, composée d'artistes, de gens de lettres et d'hommes spirituels. Carmontel, ami intime des maîtres de la maison, nous était d'une ressource extrême. Il nous faisait jouer ses proverbes. D'ailleurs, la conversation habituelle ne permettait pas que l'ennui d'eau gagnât, tant elle était vive et animée. Il serait inutile aujourd'hui de chercher à retrouver les jouissances qui provenaient alors du charme de la conversation. L'abbé de Lille m'écrivait à Rome. La politique a tout perdu, on ne cause plus à Paris. À mon retour en France, en effet, je ne me suis que trop assuré de cette vérité. Entrez dans quelque salon que ce soit, vous trouverez les femmes bâillant en cercle et les hommes dans un coin du salon se disputant sur telle et telle loi. Mais nous avons vu finir, comme tant d'autres choses, ce qu'on appelait la conversation, c'est-à-dire un des plus grands charmes de la société française. La Révolution vint mettre fin à tous les plaisirs de Colombes. Comme on savait M. de Verdun fort riche, on ne tarda pas à le mettre en prison, et l'on peut juger du désespoir de sa femme qu'il adorait. Il faut dire à l'honneur de l'humanité qu'aussitôt que la nouvelle de sa détention fut arrivée à Colombes, les paysans s'assemblèrent et vinrent tous à Paris réclamer en pleurant leur bienfaiteur. Cette démarche empêcha les autorités d'oser le mettre à mort. Néanmoins, il restait toujours prisonnier quand ces braves gens revinrent une seconde fois et renouvelèrent leur demande avec tant d'instance qu'ils obtinrent enfin sa liberté. Madame de Verdun, en apprenant cette nouvelle, éprouva une si grande joie qu'elle en perdit la tête, au point qu'elle envoya chercher deux fiacres pour aller prendre son mari dans la prison, pensant arriver plus vite ainsi. Robert. Robert, peintre en paysage, excellait surtout à représenter des ruines. Ses tableaux dans ce genre peuvent être placés à côté de ceux de Jean-Paul Ponini. Il était de mode et très magnifique de faire peindre son salon par Robert. Aussi, le nombre des tableaux qu'il a laissés est-il vraiment prodigieux. Il s'en faut bien à la vérité que tout soit de la même beauté. Robert avait cette extrême facilité qu'on peut appeler heureuse, qu'on peut appeler fatale. Il peignait un tableau aussi vite qu'il écrivait une lettre. Mais quand il voulait captiver cette facilité, ses ouvrages étaient souvent parfaits. On en connaît de lui qui font très bien pendant à ceux de Vernet. De tous les artistes que j'ai connus, Robert était le plus répandu dans le monde, que du reste il aimait beaucoup. Amateur de tous les plaisirs, sans en accepter celui de la table, il était recherché généralement, et je ne crois pas qu'il dînât chez lui trois fois dans l'année. Spectacles, bals, repas, concerts, parties de campagne, rien n'était refusé par lui. Car tout le temps qu'il n'employait point au travail, il le passait à s'amuser. Il avait de l'esprit naturel, beaucoup d'instruction, sans aucune pédanterie, et l'intarissable gaieté de son caractère le rendait l'homme le plus aimable qu'on pût voir en société. De tout temps, Robert avait été renommé pour son adresse à tous les exercices du corps, et dans un âge fort avancé, il conservait encore les goûts de sa jeunesse. À 60 ans passés, quoiqu'il fût devenu fort gros, il était resté si leste qu'il courait mieux que personne dans une partie de bar, jouait à la paume, au ballon, et nous réjouissait par des tours d'écolier qui nous faisaient rire aux larmes. Un jour, par exemple, à Colombes, il traça sur le parquet du salon une longue raie avec du blanc d'Espagne. Puis, costumé en saltimbanque, un balancier dans les mains, il se mit à marcher gravement, à courir sur cette ligne, imitant si bien les attitudes et les gestes d'un homme qui danse sur la corde que l'illusion était parfaite et qu'on n'a rien vu d'aussi drôle. Étant élève à l'Académie de Rome, Robert avait au plus 20 ans lorsqu'il paria 6 cahiers de papier gris avec ses camarades qu'il monterait tout seul au plus haut du Colisée. L'étourdi, bien qu'en risquant 1000 fois sa vie, parvint en effet jusqu'au fête. Mais lorsqu'il lui fallut descendre, n'ayant plus les saillies de pierre qu'il avait aidé à monter, on fut obligé de lui jeter par une des fenêtres une corde qu'il saisit, à laquelle il s'attacha, et lancé dans l'espace, il eut le bonheur qu'on réussît à le faire rentrer dans l'intérieur du monument. Le seul récit de ce tour de force fait dresser les cheveux. Robert est le seul homme qui ait jamais osé le tenter, et cela pour 6 cahiers de papier gris. C'est encore Robert qui s'est perdu à Rome dans les catacombes et que l'abbé de Lille a chanté dans son poème de l'imagination. Madame de Grolier, qui, comme nous, connaissait par Robert l'aventure des catacombes, après avoir entendu les vers de l'abbé de Lille, disait « L'abbé de Lille m'a fait plus de plaisir, mais Robert plus de peur. » Le bonheur dont fut accompagnée toute la vie de Robert semble avoir présidé aussi à sa mort. Le bon, le joyeux artiste n'a point prévu sa fin, n'a point enduré les angoisses de l'agonie. Il était fort bien portant et tout habillé pour aller dîner en ville. Madame Robert, qui venait elle-même de terminer sa toilette, passa dans l'atelier de son mari pour l'avertir qu'elle était prête et le trouva mort, frappé d'un coup d'apoplexie foudroyante. La duchesse de Polignac. Il n'est point de calomnie, point d'horreur que l'envie et la haine n'aient inventé contre la duchesse de Polignac. Tant de libelles ont été écrites pour la perdre que, joints aux vociférations des révolutionnaires, ils ont dû laisser dans l'esprit de quelques gens crédules l'idée que l'ami de Marie-Antoinette était un monstre. Ce monstre, je l'ai connu. C'était la plus belle, la plus douce, la plus aimable femme qu'on pût voir. Quelques années avant la Révolution, la duchesse de Polignac vint chez moi et j'ai fait plusieurs fois son portrait, de même que celui de sa fille, la duchesse de Guiche. La plupart de ses portraits, notamment celui que j'ai fait au pastel de la duchesse de Guiche, sont chez Madame la comtesse de Vaudreuil. Madame de Polignac avait l'air si jeune qu'on pouvait la croire sœur de sa fille, et toutes deux étaient les plus jolies femmes de la cour. Madame de Guiche aurait parfaitement servi de modèle pour représenter une des grâces. Quant à sa mère, je n'essaierai pas de dépeindre sa figure. Cette figure était céleste. La duchesse de Polignac joignait à sa beauté vraiment ravissante une douceur d'ange, l'esprit à la fois le plus attrayant et le plus solide. Tous ceux qui l'ont connue intimement peuvent dire que l'on s'expliquait bien vite comment la reine l'avait choisie pour amie, car elle était véritablement l'amie de la reine. Elle dut à ce titre celui de gouvernante des enfants de France. Aussitôt, la rage de toutes celles qui désiraient cette place ne lui laissa plus de repos. 1000 calomnies atroces furent lancées sur elle. Il m'est arrivé souvent d'entendre discourir les personnes de la cour qui lui étaient opposées, et j'avoue que je m'indignais d'une méchanceté si noire et si persévérante. Ce qu'aucun courtisan ne pouvait croire, quoique ce fût l'exacte vérité, c'est que Madame de Polignac n'avait point envié la place qu'elle occupait. Il se peut que sa famille se réjouît de l'y voir élevée, mais elle-même n'avait cédé qu'à son respect pour le désir de la reine et aux instances réitérées du roi. Ce qu'elle ambitionnait avant tout, c'était sa liberté, au point que la vie de la cour ne lui convenait nullement. Indolente, paresseuse, le repos aurait fait ses délices et les devoirs de sa place lui semblaient le plus lourd fardeau. Un jour que je faisais son profil à Versailles, il ne se passait pas 5 minutes sans que notre porte s'ouvrît. On venait lui demander ses ordres et 1000 choses qu'il fallait pour les enfants. « Eh bien, me dit-elle enfin d'un air accablé, tous les matins ce sont les mêmes demandes. Je n'ai pas un instant à moi jusqu'à l'heure du dîner et le soir d'autres fatigues m'attendent. » Au château de la Muette, dans lequel elle passa la belle saison, elle jouissait d'un peu plus de liberté. Les enfants de France s'y plaisaient extrêmement et elle y donnait de petits bals sans prétention où l'on s'amusait beaucoup. C'est là qu'elle est accouchée du comte Melchior de Polignac en même temps que sa fille accouchée du duc de Guiche actuel. Peu de temps avant la Révolution, elle supplia le roi d'accepter sa démission qu'il ne voulut pas recevoir. Toutefois, sa santé l'obligeant à se soigner, elle obtint d'aller prendre des bains renommés en Angleterre et elle partit dans la ferme intention de quitter sa place à son retour. Mais j'ai su positivement que le roi, effrayé du chagrin qu'allait éprouver la reine, se mit à ses genoux pour obtenir qu'elle restât gouvernante des enfants de France. On sent bien qu'une faveur aussi éclatante, aussi soutenue, excitait la fureur des envieux. Un redoublement de haine s'éleva contre la favorite. Il servit merveilleusement la révolution qui s'avançait et qui vint bientôt frapper et les Polignac et leurs ennemis. Le prince de Ligne. C'est à Bruxelles que j'ai fait connaissance avec le prince de Ligne. Mais lorsqu'il vint en France, peu d'années avant la Révolution, nous nous revîmes tous deux avec tant de plaisir qu'il passait un grand nombre de ses soirées chez moi. Lorsque lui, l'abbé de Lille, le marquis de Châteaulux, le comte de Vaudreuil, le vicomte de Ségur et quelques autres encore de ce temps-là se trouvaient réunis autour de mon feu, il s'établissait une causerie si animée, si intéressante, que nous ne nous séparions jamais qu'avec peine. Madame de Staël a dit du prince de Ligne « Il est peut-être le seul étranger qui, dans le genre français, soit devenu modèle au lieu d'être imitateur. » Et dans un autre endroit, « Les hommes, les choses et les événements ont passé devant le prince de Ligne. Il les a jugés sans vouloir leur imposer le despotisme d'un système, il sut mettre à tout du naturel. » Ce naturel, dont Madame de Staël était si bon juge, car elle en avait beaucoup elle-même, était un des premiers charmes de l'esprit du prince de Ligne. Cette brillante imagination, ses aperçus si fins, si justes sur toute chose, ces bons mots qui partaient sans cesse pour courir aussitôt l'Europe, rien n'avait pu donner au prince de Ligne la moindre prétention à se faire écouter. Ses discours et ses manières conservaient tant de simplicité qu'un sot aurait pu le croire un homme ordinaire. Le prince de Ligne était grand, Il avait une extrême noblesse dans le maintien, sans aucune roideur, sans aucune affêterie. Tout le charme de son esprit se peignait si bien sur sa figure que j'ai peu connu d'homme dont le premier aspect fût aussi séduisant, et la bonté de son cœur ne tardait pas à vous attacher à lui pour toujours. Il était à la fois brave et savant militaire. Dans tous les pays de l'Europe, ses profondes connaissances sur l'art de la guerre ont été appréciées, et l'amour de la gloire l'a toujours dominé. En revanche, il poussait à l'excès son indifférence pour sa fortune. Non seulement son extrême générosité l'a de tout temps entraîné dans des dépenses énormes, sans qu'il consentît jamais à compter. Mais quand je le retrouvai à Vienne, en 1792, il entra un soir chez Madame de Romberg pour nous apprendre que les Français venaient de s'emparer de tous les biens qu'ils possédaient en Flandre, en Belgique, et il nous parut très peu affecté de cette nouvelle. « Je n'ai plus que 2 louis, ajouta-t-il d'un air dégagé. « Qui donc paiera mes dettes ?» Une perte bien autrement douloureuse pour lui, la seule qui l'ait profondément affligée, a été celle de son fils Charles. Ce jeune homme, plein de valeur, est mort glorieusement au combat de Bourg en Champagne. Le coup qui le frappa, frappa de même le prince de Ligne, qui en perdit à jamais sa gaieté et tout le plaisir qu'il prenait à vivre. Tout le monde connaît les mémoires et les lettres du prince de Ligne, dont le style, ce style parlé, comme dit Madame de Staël, offre un charme tout particulier. Parmi les lettres, celles que je préfère sont celles qu'il adressait à la marquise de Coigny pendant son voyage en Crimée avec l'impératrice Catherine, voyage dont il nous a fait si souvent des récits. Elles le font revivre pour moi, surtout celles qu'il écrivit de Partenitsa. Cette lettre est remplie d'idées à la fois si spirituelles et si philosophiques. Elle peint si bien l'esprit et l'âme du prince de Ligne qu'elle me fait l'effet d'un prisme moral. J'ai relu cette lettre 10 fois et j'espère bien la relire encore. La comtesse d'Outhoteau. J'ai connu la comtesse d'Outhoteau longtemps avant la Révolution. Elle s'entourait alors de tout ce qu'il y avait à Paris d'hommes d'esprit et d'artistes célèbres. Comme j'avais un grand désir de la voir, Madame de Verdun, mon amie, qui la connaissait intimement, me conduisit à Sannois, où Madame d'Outhoteau avait une maison, et me fit inviter à passer la journée. Je savais qu'elle n'était point jolie, mais d'après la passion qu'elle avait inspirée à Jean-Jacques Rousseau, je pensais au moins lui trouver un visage agréable. Je fus donc bien désappointée en la voyant si laide, qu'aussitôt son roman s'effaça de mon imagination. Elle louchait d'une telle manière qu'il était impossible, lorsqu'elle vous parlait, de deviner si c'était à vous que s'adressaient ses paroles. À dîner, je croyais toujours qu'elle offrait à une autre personne ce qu'elle m'offrait, tant son regard était équivoque. Il faut dire toutefois que son aimable esprit pouvait faire oublier sa laideur. Madame d'Outhoteau était bonne, indulgente, chérie avec raison de tous ceux qui la connaissaient, et comme je l'ai toujours trouvée digne d'inspirer les sentiments les plus tendres, j'ai fini par croire après tout qu'elle a pu inspirer l'amour. Le maréchal de Biron, le maréchal de Brissac. La figure, la taille, la contenance de ces 2 vieux soutiens de la monarchie française sont si bien restés dans ma mémoire qu'aujourd'hui je pourrais les peindre tous deux de souvenirs. Ayant entendu parler du superbe jardin de l'hôtel de Biron, que l'on disait rempli des fleurs les plus rares, je fis demander au maréchal la permission de m'y promener. Il me l'accorda et je me rendis un matin chez lui avec mon frère. Malgré son grand âge, il avait, je crois, 84 ans, et ses infirmités, le maréchal de Biron, marchant avec peine, vint au-devant de moi. Il descendit son large perron pour me donner la main quand je sortis de ma voiture, puis s'excusa beaucoup de ne pouvoir me faire les honneurs de son jardin. Ma promenade finie, je revins au salon où le maréchal me retint longtemps. Il causait avec grâce et facilité, parlant du temps passé de manière à m'intéresser beaucoup. Quand je retournai à ma voiture, il voulut absolument me donner la main jusqu'au bas de son perron, et le corps droit, la tête nue, il attendit pour entrer dans la maison qu'il m'eût vu partir. Cette galanterie dans un homme plus qu'octogénaire me parut charmante. Le maréchal de Biron est mort en 1788. Il n'eut pas la douleur d'être témoin de la défection des gardes françaises. il avait établi dans ce corps une discipline extrêmement sévère que le duc du Châtelet, qui lui succéda, venait de relâcher beaucoup trop quand la Révolution arriva. Pour le maréchal de Brissac, je ne l'ai vu qu'aux Tuileries, où il se promenait très souvent. Il paraissait bien âgé, mais se tenait fort droit et marchait encore comme un jeune homme. Son costume le faisait remarquer, car il portait toujours ses cheveux nattés, qui formaient deux queues, tombant derrière la tête, l'habit long, très ample, avec une ceinture au bas de la taille et des bas à coins brodés en or roulés sur ses genoux. Une toilette aussi antique ne lui donnait rien de grotesque. Il avait l'air extrêmement noble et l'on croyait voir un courtisan sortant des salons de Louis XIV. Monsieur de Talleyrand. Champfort m'amena un matin Monsieur de Talleyrand, alors l'abbé de Périgord. Son visage était gracieux, ses joues très rondes, et quoiqu'il fût boiteux, il n'en était pas moins fort élégant et cité comme un homme à bonne fortune. Il ne me dit que quelques mots sur mes tableaux. J'eus des raisons de croire alors qu'il voulait savoir si j'avais autant de luxe et de magnificence qu'on le disait, et que Champfort l'amenait pour le convaincre du contraire. Ma chambre à coucher, la seule pièce où je pusse recevoir, était meublée avec une simplicité extrême, et M. de Talleyrand peut se le rappeler aujourd'hui aussi bien que beaucoup d'autres personnes. Jamais, je crois, M. de Talleyrand n'est revenu chez moi. Mais je l'ai revu quelque temps à Gennevilliers, où il est venu dîner chez le comte de Vaudreuil, et plus tard aussi, quand je suis rentré en France. Alors il était marié avec Madame Grand, très jolie femme dont j'avais fait le portrait avant la Révolution. C'est d'elle qu'on raconte une aventure assez plaisante. Monsieur de Talleyrand, donnant à dîner à Denon, qui venait d'accompagner Bonaparte en Égypte, engagea sa femme à lire quelques pages de l'histoire du célèbre voyageur auquel il désirait qu'elle pût adresser un mot aimable. Il ajouta qu'elle trouverait le volume sur son bureau. Madame de Talleyrand obéit, mais elle se trompe et lit une assez grande partie des aventures de Robinson Crusoé. À table, la voilà qui prend l'air le plus gracieux et dit à Denon « Ah, monsieur, avec quel plaisir je viens de lire votre voyage! Qu'il est intéressant, surtout quand vous rencontrez ce pauvre vendredi !» Dieu sait à ces mots quelle figure a dû faire Denon et surtout monsieur de Talleyrand. Ce petit fait a couru l'Europe, et peut-être n'est-il pas vrai. Mais ce qu'il est incontestablement, c'est que Madame de Talleyrand avait fort peu d'esprit. Sous ce rapport à la vérité, son mari pouvait payer pour deux. Le docteur Franklin. Je vis pour la première fois le docteur Franklin lorsque je faisais le portrait de monsieur depuis Louis XVIII. Il venait avec les autres ambassadeurs faire sa visite de cour. Je fus frappé de son extrême simplicité. Il était vêtu d'un habit gris tout uni, ses cheveux plats, sans poudre, tombés sur ses épaules, et si ce n'eût été son noble visage, je l'aurais pris pour un gros fermier, tant il faisait contraste avec les autres diplomates, qui tous étaient poudrés, en grande tenue, et chamarrés d'or et de cordons. Nul homme à Paris n'était plus à la mode, plus recherché que le docteur Franklin. La foule courait après lui dans les promenades et les lieux publics. Les chapeaux, les cannes, les tabatières, tout était à la Franklin et l'on regardait comme une bonne fortune d'être invité à un dîner où se trouvait ce célèbre personnage. Je puis dire toutefois qu'il ne suffisait pas de se rencontrer avec lui, fût-ce même très fréquemment, pour satisfaire la curiosité qu'il excitait. Je l'ai beaucoup vu chez Madame Brion, qui habitait constamment Passy. Franklin passait là toutes ses soirées. Madame Brion et ses deux filles faisaient de la musique qu'il semblait écouter avec plaisir, mais dans les intervalles des morceaux, je ne lui ai jamais entendu dire un seul mot et j'étais tenté de croire que le docteur était voué au silence. Le prince de Nassau. Je n'étais pas encore mariée quand le prince de Nassau, qui était jeune alors, me fut présenté par l'abbé Giroux. Il me demanda son portrait, que je fis en pied, d'une très petite dimension et à l'huile. Le prince de Nassau, surnommé l'invulnérable par le prince de Ligne, était déjà connu par des actions d'éclat tellement héroïques qu'on pourrait les croire fabuleuses. Sa vie entière offre une suite d'aventures, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Il avait à peu près 20 ans lorsqu'il suivit Bougainville dans le voyage autour du monde et s'enfonça dans les déserts où l'intrépidité qu'il déploya lui valut le surnom de « dompteur de monstres ». Depuis, vainqueur sur mer, vainqueur sur terre, il s'est, je crois, battu contre toutes les nations du globe. Toujours guerroyant, toujours en activité, il a couru le monde d'une extrémité à l'autre. Aussi disait-on qu'il fallait lui adresser ses lettres sur les grands chemins. Rien dans la figure et dans tout l'aspect du prince de Nassau n'annonçait le héros d'une histoire aventureuse. Il était grand, bien fait, avait des traits réguliers, avec une grande fraîcheur de carnation. Mais l'extrême douceur et le calme habituel de sa physionomie ne laissaient présumer ni tant de hauts faits, ni cette valeur intrépide qui le signalait entre tous. À Vienne, où je l'ai retrouvé pendant l'émigration, j'avais mené ma fille, âgée de 9 ans alors, chez Casanova, qui, dans plusieurs tableaux, avait représenté le prince de Nassau terrassant des tigres, des lions, etc. Peu de temps après, nous nous trouvions un soir chez la princesse de Lorraine. On annonça le prince de Nassau. Ma fille, qui s'attendait à contempler un homme féroce, me dit tout bas « Comment ? Est-ce là celui dont j'ai tant entendu parler ? Il a l'air doux et timide, comme une demoiselle qui sort du couvent. » Monsieur de Lafayette. Peu avant la Révolution, je reçus la visite de Monsieur de Lafayette. Il vint chez moi uniquement pour voir le portrait que je faisais alors de la jolie Madame de Simiane, à laquelle, dit-on, il rendait des soins. Depuis, je ne l'ai pas même rencontré, et bien certainement, nous aurions eu de la peine à nous reconnaître, car j'étais jeune lors de cette visite, et il était aussi, quoique ce fût après son voyage en Amérique. Sa figure me parut agréable, son ton, ses manières, avaient beaucoup de noblesse et n'annonçaient pas le moins du monde des goûts révolutionnaires.